Ouais, bon, ben j'ai même pas branché le fil. Ah, je te dis. Étienne, il serait pas fier. Étienne, si tu nous entends, là. Juge-moi pas trop, là. C'est bizarre, ça flash. OK. OK. Le 26 décembre 2004, où étiez-vous? Est-ce que vous vous rappelez de cette date-là? Le 26 décembre 2004.
C'était le tsunami, là, de...
Exactement. Le 26 décembre 2004, des familles en vacances jouaient sur les plages de la côte ouest de la Thaïlande. Soudain, un événement étrange attira les regards des gens. La mer se retirait de la côte à une vitesse et à des distances jamais vues jusqu'alors. Beaucoup de gens appelèrent leurs amis et familles pour venir voir ce phénomène étrange, ce qui a contribué à amplifier le désastre qui frappa 20 minutes plus tard, le grand tsunami qui est arrivé avec des vagues entre 12 et 30 mètres de haut, selon l'endroit, et qui percuta la côte et inonda les villes et les villages sur des kilomètres à l'intérieur des terres, emportant tout sur sa voie et tuant environ 228 000 personnes. Le film Impossible retrace l'histoire vraie de... Ça va-tu? Oui? OK. Ah, OK, c'est beau. Je me demandais, c'est moi qui sonnais? Non? C'est le pacemaker et Richard qui sonne. Ah, Richard, c'est mon souffre-douleur. Ouais, c'est ça. Ouais. Le film Impossible retrace l'histoire vraie de Maria Bellon, une femme médecin espagnole et sa famille partie fêter Noël là-bas en Thaïlande. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce film-là. Ça vaut vraiment la peine de voir. Oui, surpris par la vague géante au moment où ils sont dans la piscine de leur hôtel, ils sont séparés en deux groupes, mais réussissent à survivre malgré de graves blessures. Maria se fait opérer d'urgence pour des blessures graves et survit au milieu du chaos de toutes ces personnes traumatisées, perdues et endeuillies. Ils continuent leur recherche, ne lâchent pas prise et vont finir par tous se retrouver. Toute la famille est enfin évacuée par avion pour rentrer chez eux. On pourrait dire que les familles des membres de cette famille ont été sauvées trois fois. Premièrement, ils survivent à l'impact initial du tsunami. Puis, ils survivent à l'inondation qui suit et aux blessures qu'ils subissent. Et finalement, ils sont évacués et complètement enlevés de cette situation désastreuse. Et la Bible nous présente le salut en trois parties de cette façon-là. Ce matin, on va regarder à la première partie. Nous sommes en train d'étudier la personne de Jésus, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois depuis le début de l'année. On étudie la personne de Jésus dans son identité. Et à date, nous avons vu qu'il s'appelle le pain de vie, ou le pain qui porte la vie, la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection et la vie, la porte, le bon berger, l'ami des gens de mauvaise vie, et la dernière fois, c'était loin de Dieu, le Messie, c'est-à-dire le Christ. Ce matin, nous allons considérer un autre titre que porte Jésus, c'est « Sauveur ». Et c'est probablement un des titres qui est le plus connu et en même temps le plus méconnu. Donc, on entend souvent ça, Jésus le sauveur, mais est-ce qu'on sait c'est quoi exactement un sauveur? Et ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous inviter à étudier cet aspect-là de la personne de Jésus-Christ. Donc, si vous voulez juste tourner avec moi dans l'Évangile de Luc, au deuxième chapitre, L'Évangile de Luc au deuxième chapitre. À partir du verset 8, c'est l'histoire de Noël. Alors, les champs, dans les champs environnants de Bethléem, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura : N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un Sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Prions. Éternel grand Dieu, merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs ce matin d'être présents ensemble, pour la joie qu'on a eue hier aussi, Seigneur, à te servir, et pour la joie qu'on a d'entendre ta voix. Seigneur, on te demande de nous parler ce matin, de nous éclairer par ton esprit, ta parole. Oui, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de mes paroles, de ma bouche, de mes pensées. On repousse en ton nom, Seigneur, toute autre voix. On veut entendre ta voix seule, Seigneur Jésus, qui nous parle ce matin. Merci d'entendre nos prières ce matin, Père, pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, dès sa naissance, ce titre de sauveur est attribué à Jésus. L'ange annonce au berger qu'un sauveur leur est né, c'est lui, Christ, le Seigneur. Ensuite, les parents amènent Jésus au temple à l'âge de 8 jours, et là, rencontre Siméon, un vieil homme de Dieu qui bénit le Seigneur de lui permettre de voir cet enfant. Voici ce qu'il dit du petit Jésus. « Mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. » Mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Plusieurs personnes témoignent la même chose de Jésus. Voici ce que déclare l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 4, verset 14. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Pierre et les autres apôtres, devant les leaders du peuple qui voulaient les interdire de parler de Jésus, a déclaré ceci, « Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois, et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. » C'est dans Actes 5, 30 et 31. En fait, le mot « sauveur » apparaît 53 fois dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même, dans son entretien avec le chef religieux Nicodème dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, dit « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé. » Qu'est-ce qu'un sauveur? Et c'est ce que je vais regarder avec vous ce matin, ces points ici. Jésus-Christ appelé sauveur, c'est ce qu'on vient de voir. Que signifie sauver ou salut? Sauver de quoi? Qui peut être sauvé? Et quand qu'il faut être sauvé? Alors, les termes sauver, le verbe à l'infini, sauver le participe passé, sauvera et toutes ces déclinations et salut, apparaissent plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Donc, il y a quelque chose d'important que Dieu veut nous communiquer. Que signifie sauver ou apporter le salut? Bien, il y a deux choses que j'aimerais regarder avec vous ce matin dans cet aspect-là de sauver ou d'apporter le salut. Premièrement, c'est d'empêcher la destruction ou la perte de quelque chose. Empêcher la destruction ou la perte de quelque chose. Donc, on peut dire, mon skidoo a passé à travers la glace, puis je l'ai sauvé. Donc, on a sauvé le skidoo. On a empêché sa destruction ou la perte. Deuxième aspect à cette définition, c'est de faire échapper quelqu'un ou un groupe à un grave danger. Par exemple, sauver quelqu'un des flammes d'un incendie. Il y a un grave danger et on fait échapper la personne à un grave danger. Donc, il y a comme deux volets et on va regarder ces deux volets-là ce matin ensemble. Dans le Nouveau Testament, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois le terme « sauver » est appliqué non pas à l'âme, mais au corps. Parce que Jésus va dire, par exemple, à la femme qui l'a guérie de 12 ans d'hémorragie, il dit « Va, ta foi t'a sauvée ». Mais en fait, c'est traduit « guéri » et c'est en rapport avec son corps. Donc, je voudrais que vous soyez en mesure de distinguer quand on parle du corps. Il le dit aussi au lépreux samaritain qui est revenu pour le remercier. Il dit « Va, ta foi t'a sauvée ». C'est-à-dire que c'est ta foi qui t'a sauvé de la maladie. OK? Il faut distinguer ces choses-là. Mais dans la grande majorité de cas, le terme est employé dans un sens spirituel, comme dans le récit où Jésus s'invite chez le collecteur d'impôts Zachée. Vous vous rappelez, il s'en allait, puis il voit cet homme-là dans l'arbre, et puis il dit « Zachée, descends, je m'en vais dîner chez vous aujourd'hui ». Jésus s'invite chez Zachée. Et ce dernier qui déclare, après le repas, après avoir fait la rencontre de Jésus, qu'il allait donner la moitié de ses richesses aux pauvres et que s'il avait fraudé quelqu'un, qui est fort probable, il lui remettrait quatre fois. Ce à quoi Jésus déclare, le salut, sauvé, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci, en parlant de Zachée, et aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme, parlant de lui-même, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc ici, on a l'idée de sauver quelque chose de la perdition, empêcher la destruction de quelque chose. Okay? Chercher et sauver ce qui était perdu. Voici le témoignage de l'apôtre Paul dans 1 Timothée 1,15. « La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs dont je suis le premier ou l'exemple type, dans une autre version. » Jésus-Christ est venu dans le monde pour faire quoi? Sauver. Qui? Les pécheurs. Jésus n'est pas venu pour les bonnes personnes. C'est-à-dire que ceux qui se pensent bons. Jésus est venu sauver ceux qui se reconnaissent pécheurs. Alors, j'aimerais maintenant vous inviter à considérer les trois questions suivantes qui sont d'une importance capitale pour vous et moi. Sauver de quoi? Sauver de qui peut être sauvé et quand faut-il être sauvé? Sauver de quoi? Si on revient à notre définition du début, il semble avoir deux aspects, comme j'ai dit, à l'action de sauver dont Jésus parle, empêcher la destruction ou la perte de quelque chose et faire échapper à un grave danger. Au départ, dans la Genèse, on voit un aperçu d'une belle relation d'amour et de confiance qu'avaient Adam et Ève avec Dieu. Ce n'est pas un récit allégorique. C'était une histoire vraie, vécue. Et ces deux personnes-là ont une communion directe avec Dieu. Mais à un moment donné, tout ça est perdu. La relation avec le Père, la source de notre vie et de toute vie, le lien d'enfant avec celui qui l'a mis au monde est coupé. Celui qui nous aime plus que tout, on le perd de vue. Et comment c'est arrivé? La Bible nous dit que l'humanité a perdu sa connexion avec celui qui est la source de lumière et de vie par le fait qu'il s'est détourné de Dieu. Il a décidé de prendre son propre chemin. Et là, l'être humain est coupé avec la source de vie et de lumière de l'univers qui est Dieu lui-même. C'est comme si tout à coup, plus de courant, plus d'Internet, plus de radio, plus de téléphone, vous êtes coupé d'avec toute connexion en dehors. C'est un peu comme... Ça me donne la frousse à chaque fois que je vois ça. C'est un astronaute qui fait une escapade, une promenade dans l'espace. Hein? Puis il y a juste la corde... Hein? Puis là, on dit, « Oh, mon ami, si la corde lâche... Hein? » Puis il y a un film, là, à un moment donné, vous avez vu, là? Oh! Mais c'est ça qui est arrivé à nous, à la race humaine. C'est exactement ça. On se retrouve dans la noirceur absolue, dans la froideur absolue. Et l'être humain est plongé dans une obscurité et un froid épouvantable qui nous conduit à penser, à dire et à faire toutes sortes de choses méchantes et destructrices. Les gens se demandent pourquoi ça va mal dans le monde. La raison est là. Cette semaine, je regardais sur Internet CNN et je suis tombé sur une vidéo. C'était une vidéo d'une caméra de surveillance d'un concessionnaire automobile dans les banlieues de Kiev. Là. OK? Il y en a qui l'ont vu peut-être. Et on voit très bien, il y a deux soldats russes. Ils sont en discussion avec le propriétaire puis son garde du corps. Puis après ça, apparemment, ils ont leur demandé des cigarettes. Le propriétaire s'en va, puis il leur tire dans le dos pour pouvoir saccager le bureau et voler les objets de valeur. Tuer froidement. C'est affreux pour avoir un cellulaire ou des quelques dollars ou une montre. Un soldat ukrainien arrivé sur place pour porter secours a remarqué, parce que là, il est arrivé avec deux ou trois autres pour porter secours, mais ils se sont fait tirer dessus par les Russes. Il a dit, et je cite, « On espérait que les soldats russes aient un peu d'humanité, mais ils n'en ont pas. » Ils n'ont pas d'humanité. Pourquoi on perd notre humanité? La réponse, selon la Bible, c'est qu'on est coupé d'avec la source de bonté et d'amour, Dieu lui-même. Zachée abusait des gens pour son gain personnel, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Voyez-vous, il était coupé de Dieu. Il avait perdu la ressemblance avec son Père puisqu'il n'était plus en relation avec lui. Et la Bible nous dit que nous tous, sans exception, nous sommes égarés comme des brebis et nous avons suivi notre propre chemin qui nous a menés loin de Dieu. D'ailleurs, Jésus raconte une histoire d'un berger qui part à la recherche d'une brebis perdue et qui, après l'avoir retrouvée, invite ses amis et voisins à venir fêter avec lui, car, dit-il, « J'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Aussi, le fils prodigue, dans le même passage qu'on devrait plutôt appeler le fils perdu, à mon avis, à la fin du récit, son père dit, « Voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. » Dans Luc 15, 24. Alors, si « sauver », le verbe « sauver » veut dire « empêcher la perte de quelque chose », en ce qui nous concerne, Jésus est venu nous trouver et nous sauver d'une vie sans relation avec Dieu qu'on avait perdue. Comprenez? Avec un Dieu absolument merveilleux. Le premier sens de « sauver », c'est ça. « Sauver » ce qui était perdu ou empêché la perte de quelque chose. On avait perdu cette relation, était coupé avec Dieu, et par le fait même, Jésus est venu nous secourir de nous-mêmes parce que on perdait notre humanité, comme ces soldats russes-là. nous secourir d'une humanité déchue, défigurée et dangereuse, dangereuse pour nous-mêmes et pour les autres. Allez pas penser que les soldats russes sont différents de nous. Je serais capable de faire ça. Dans les bonnes circonstances, avoir été élevé comme ça, avoir gobé les mensonges, je pourrais faire ça. Mais Jésus est venu nous sauver d'une vie qui est coupée d'avec la source de lumière et d'amour. Il est venu pour rétablir cette relation-là, pour l'empêcher d'être perdu à tout jamais. Mais deuxièmement, sauver, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire faire échapper à un grave danger. Quel est le danger qui nous guette? C'est qu'en étant séparés de Dieu, notre Père, nous avons tous tourné le dos à Dieu, à celui qui a tout donné, la vie, le mouvement, l'être, la joie, et nous l'avons tous rejeté, Dieu. Pire encore, et c'est là que je veux vous amener à considérer quelque chose qui va être dur à considérer, mais qui est vrai. Nous l'avons tué dans nos cœurs, Dieu. Par notre attitude et nos actions, nous lui avons dit, « Retire-toi de moi. » Et comment je peux vous prouver que nous l'avons tué dans nos cœurs? C'est que lorsque Dieu s'est présenté en tant qu'homme sur la terre, nous avons fait quoi avec? Puis là, on dit, « Ah non, mais là, si j'avais été là, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas été de ceux-là qui auraient fait ça. » Un instant. L'essence du péché, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, mes amis, est meurtrier. Regardez l'orgueil du président de la Russie actuellement et dites-moi qu'il n'est pas meurtrier, l'orgueil. C'est par orgueil qu'il fait tout ça. L'orgueil. Oui, l'orgueil est meurtrier parce qu'il recherche son bien par-dessus tout, son plaisir et sa gloire. Il veut avoir raison, il veut son droit, même aux dépens des droits des autres, incluant leur droit de vivre. Et chers amis, c'est ce qu'on a fait avec Dieu, celui qui nous aime par-dessus tout et qui veut notre bien. Reconnais dans ton cœur ce matin qu'à force de vouloir vivre ta propre vie sans Dieu, par orgueil, tu n'as pas voulu de Dieu, que dans ton cœur, c'est comme si tu avais tué Dieu. C'est l'offense la plus grave au monde. C'est le crime le plus haineux qui soit. Imaginez-vous. Considérez comment on détermine dans notre société la gravité d'un crime. On va regarder à l'intention. On va regarder à l'innocence de la victime. On va regarder à la sévérité de l'action posée. Et là, on va déterminer la gravité d'un crime. Par exemple, un homme qui massacre à coups de hache un petit enfant innocent sera jugé beaucoup plus sévèrement qu'un autre qui, par négligence, n'a pas recouvert sa fosse septique et qu'un cambrioleur est tombé dedans se fracturant les deux jambes. N'est-ce pas? Donc, nous, ce que nous avons fait, nous avons tué la personne la plus merveilleuse, la plus innocente, la plus bienveillante, la plus aimante de l'univers. Pour quel motif? Par orgueil. parce que nous voulions vivre nos vies à notre façon. C'est comme si un fils prenait le couteau et tuait en sang-froid ses parents qui l'avaient élevé et qui avaient tout donné, parce qu'il voulait avoir la maison et l'auto. C'est ce qu'on a fait. Par orgueil, on voulait faire nos affaires, on voulait vivre notre vie, on a dit « Dieu, achale-moi pas », aussi bien dire que « Va-t'en, je ne veux plus te voir, si tu n'existes pas, ça ne me fait rien. » Comprenez? C'est grave. Quelqu'un a dit aussi que la gravité d'un péché est proportionnelle à la grandeur de la responsabilité qui nous incombait. Hein? Donc, si par exemple tu as la responsabilité de nourrir ton enfant et que tu ne le fais pas et que ton enfant meurt, c'est grave parce que tu avais une grande responsabilité. Dans notre cas, nous, on a tout reçu de Dieu. La vie, le mouvement, l'amour, tout, tout, tout. Et notre responsabilité, c'était quoi? C'était de l'aimer et de lui obéir en retour. Et Dieu étant l'être le plus merveilleux, le plus glorieux, le plus aimant, notre responsabilité est à l'infini. Donc, si on a failli à ça, notre faute est infinie. Comment ne pas reconnaître que par ta vie que tu mènes en ignorant totalement Dieu, en te fichant de ce qu'il te dit, que tu ne l'as pas tué dans ton cœur? C'est grave. Alors, pour revenir au danger qui nous guette, c'est un jugement sévère. C'est le jugement juste de Dieu qui nous attend. D'abord, de l'avoir tué, lui. Ensuite, pour toutes les mauvaises actions qu'on a commises tout au long de notre vie. Paul nous dit dans Romains que nous accumulons contre nous tout un dossier pour ce jugement, ce jour de jugement. Ce jugement, dit-il, ne sera pas comme le jugement des hommes. Il sera véridique. Hein, ce qu'on reproche souvent à la justice humaine, on dit « Ah, c'est pourri, c'est pas de vraie justice ». Paul nous dit dans Romains que la justice de Dieu est véridique. Elle est selon la vérité. Dieu n'a pas besoin de témoins ou d'évidence pour savoir exactement. Il est il est conscient, il est parfaitement au courant de chaque détail de ta vie. Son jugement sera impartial, Paul nous dit. On ne peut pas acheter le juge. Exactement. Et ça, c'est un bon point, Robert. Ça me ramène à ces deux soldats russes-là. Imaginez un jour qu'ils sont mis devant les évidences. Et la Bible dit qu'un jour, tout être humain va être mis devant l'évidence et toute bouche va être fermée. Il n'y a pas un être humain qui va pouvoir rouspéter ou dire quelque chose contre les évidences que Dieu va montrer. Voici. Dans Romains 1, au chapitre 29, Paul dit, « Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchancetés, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants. » Et la médisance, moi, ça me scie les deux jambes. La médisance. Comment c'est répandu, la médisance? On va dire, « Salut, comment ça va bien? » Puis là, quand tu n'es plus dans la présence de la personne, « Ah, ben là, Jean, matin, là, hey, hein? » Là, on parle contre Jean. Hein? Wow. Ou on parle contre une sœur, ou contre une frère, ou contre un collègue de travail. C'est comme ça qu'on est, là. Avouons-le. Tout est beau, tout est fin, tout est parfait en dehors. Moi, je suis chef d'entreprise, puis laissez-moi vous dire, j'ai fait le saut plusieurs fois dans les dernières années, de voir que tout est beau, tout est calme en surface, puis qu'en arrière, ça parle contre nous. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, insensibles, impitoyables, ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Toi donc, que tu sois qui te condamne ces comportements, tu n'as aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi, tu les juges, te conduis comme eux. Et qu'on est expert à juger les autres, à voir les péchés chez les autres. Mais Paul, il dit ici, étant donné que tu es tellement expert, là, sache ceci, que toi aussi, tu vas être jugé, parce que tu es capable de discerner le bien et le mal, et pourtant, tu pratiques le mal. L'exemple que je donne souvent, et c'est que les êtres humains, on insiste tellement pour que les gens soient honnêtes. Hein? Si tu me mens, là, et là, ça va mal. Là. Si tu me mens, là, il faut que tu me dises la vérité. Mais nous, on se revire de bord, puis on est capable de mentir. On insiste sur quelque chose, parce qu'on dit ça, c'est juste. On reconnaît que c'est juste, puis on insiste, puis on va être fâché si... on ne nous dit pas la vérité, là. Hein? Tu vas au magasin et ils te vendent quelque chose qui n'est pas comme annoncé. Là, tu vas faire quoi? Tu retournes et tu es fâché. Tu veux avoir la vérité. Mais dans ta propre vie, est-ce que tu dis toujours la vérité? C'est ça que Paul dit ici. En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Alors, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Dieu, son jugement, va être vrai. T'imagines-tu, toi qui juges ceux qui commettent de tes actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper? Le jugement de Dieu est quoi? Inévitable. Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? On va y revenir tantôt. Mais par ton entêtement, ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Et voilà le danger qui nous guette. Jésus, lui, il est le sauveur. Qu'est-ce qu'il fait? Il sauve. Il sauve de quoi? Il sauve de ça. C'est le seul. C'est le seul qui est capable de sauver de ça. Il dit, « Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car ce n'est pas pour juger le monde que je suis venu, c'est pour sauver. » Mais dans ce passage, dans Jean 12, 47, on voit très bien qu'il y a un jugement qui s'en vient. Et les amis, on est tous comme ces pauvres vacanciers, on joue sur la plage, tout est beau, le soleil brille, l'eau se retire, la plage est plus grande encore, merveilleux, venez voir ça, on ne se doute pas de la catastrophe qui nous attend. En venant sur terre, Jésus a vécu une vie parfaite dans l'amour et l'obéissance à Dieu, et sur la croix, la Bible nous dit que Dieu a fait retomber sur lui tout le jugement qui te revenait à toi et à moi. Et c'est pourquoi il s'appelle le Sauveur. C'est le seul. C'est le seul qui peut sauver. Donc, pour résumer, Jésus est le Sauveur qui peut empêcher la perte de la relation d'amour avec Dieu pour tout jamais. Vous avez une chance encore de rétablir cette relation d'amour et de vie avec votre Dieu, votre Père. Et il est le Sauveur qui fait échapper au grave danger qui te guette du jugement juste de Dieu contre ton péché. Notez bien que ce n'est pas d'être sauvé simplement des conséquences de nos péchés. Les êtres humains, on est fourbe comme ça. On est assez tordu pour vouloir être sauvé des conséquences de nos péchés, mais pas être sauvé, être remis en relation avec le Père et vivre selon sa lumière et son amour. On voudrait être sauvé des conséquences de notre péché, mais continuer à vivre notre propre vie. Ah, maintenant j'ai cru en Jésus, j'ai mon billet pour le ciel. Je fais ce que je veux. Certains se sont royalement trompés en pensant qu'ils ont juste à prier une petite prière de repentance pour que Dieu les pardonne, et voilà, ils ont leur billet pour le ciel, mais leur vie n'a absolument pas changé. Ils continuent à vivre de la même façon orgueilleuse qu'avant. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Qui peut être sauvé? Jean le baptiseur, le prophète qui a directement précédé Jésus pour annoncer sa venue, prêchait dans le désert et baptisait les gens. Pourquoi? Voici ce que nous dit l'Évangile de Marc selon la version juive que ma sœur m'a prêtée hier soir. Yohanan, c'est la forme juive de Jean, Yohanan l'immergeur parut dans le désert. Il proclamait l'immersion dans l'eau, le baptême, pour signifier que l'on faisait, écoutez bien ça, retour vers Dieu en se détournant du péché afin d'être pardonné. Ah, oh, wow! Ça, c'est merveilleux. Savez-vous pourquoi c'est merveilleux? Moi, j'ai dit à Lise hier soir, c'est fantastique parce que ça met l'emphase sur revenir à Dieu. OK? Quand on parle de repentance, souvent on pense comme repentance, pénitence, faut être affligé de nos péchés, puis OK, je regrette, puis j'ai des remords, puis tout ça, puis je vais essayer de ne plus en faire. OK, c'est ça la repentance? Non. Non. La repentance, c'est de changer de direction, puis de revenir, de se retourner vers Dieu. Puis pour se retourner vers Dieu, il faut quitter notre ancienne vie d'orgueil. C'est ça, la repentance. Donc, ce n'est pas une espèce d'œuvre pieuse, là, où ce que tu dois te fouetter pour essayer d'être une meilleure personne. Ah, si seulement je pouvais arrêter de fumer, là. Si seulement je pouvais arrêter de prendre un coup. Si je pouvais arrêter de sacrer. Ah, Colin. Alors, aide-moi, Seigneur. Je voudrais être une meilleure personne. C'est foutu, ça. C'est foutu, ça. Ça, c'est ton œuvre à toi. C'est encore l'orgueil. C'est encore l'orgueil. Ça a une apparence de spiritualité, mais c'est encore l'orgueil parce que toi, là, tu veux être une meilleure personne. Puis tu sais que ce que tu fais, c'est mal. Fait que là, tu devrais arrêter pour pouvoir être une meilleure personne. C'est sans Dieu. Dieu n'est pas là, là. C'est tes propres forces. Jésus est où là-dedans? Il est nulle part là-dedans. Ça, c'est une œuvre humaine. La vraie repentance ici, écoutez, il prêchait et il baptisait pour signifier qu'on faisait retour vers Dieu. Ah, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est comme le premier point qu'on a vu, hein? Jésus est venu pour sauver ce qui était en danger d'être perdu, la relation avec Dieu. Donc, pour faire retour à Dieu en se détournant du péché afin d'être pardonné. La première étape pour être sauvé par Jésus, qui peut être sauvé, c'est de reconnaître sa situation. C'est comme dans les cours de survie qu'on peut voir sur Internet ou ailleurs. La première étape, lorsqu'on est perdu en difficulté en nature, c'est quoi? S'arrêter, faire un bilan de notre situation, d'en prendre conscience. Pas simplement continuer aveuglément sans réfléchir. Alors ce matin, Dieu te parle sur ta situation. Écoute, réfléchis. Si tu reconnais que tu as passé ta vie loin de lui dans l'orgueil, en le repoussant. Tu as perdu non seulement la plus belle relation possible avec l'être le plus merveilleux, perdant ainsi une bonne partie de ton humanité par le fait même, mais tu risques également de te retrouver devant lui comme juge. Et ça, la Bible dit, c'est chose terrible. Dieu t'appelle ce matin à revenir, à faire un retour vers lui en te détournant de ta vie de rébellion contre lui, afin d'être pardonné. Comment? En reconnaissant que Jésus est mort à la croix pour toi, et en criant à lui pour qu'il te sauve. L'apôtre Pierre, après avoir guéri un homme handicapé et se tenant devant les leaders de son temps, leur déclara ceci, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est grâce à lui que cet homme se tient là debout devant vous et en bonne santé. Il, Jésus, est la pierre rejetée par les constructeurs. » Voyez-vous? Eux, ils ont construit leur vie en rejetant Dieu. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné de nom, aucun autre nom par lequel nous devions être, quoi? Sauvés. Sauvés. Il faut être sauvés. Ce matin, c'est un peu comme si on pouvait retourner le 26 décembre 2004. Imaginez. Imaginez, vous voyez l'eau commencer à se retirer. Là, vous le savez, là. Là, vous le savez, là. Maintenant, on le sait, là. Les gens, ils ne savaient pas avant, là. Mais maintenant, on le sait. Quand l'eau se retire, moi, à chaque fois que je vais à l'océan maintenant, je guette l'eau. Là, si ça retire bien loin, là, tu vas être sûr que je vais être parti dans l'autre direction. Mais imaginez qu'on est sur la plage. L'eau commence à se retirer. Là, on dit au monde, il y a un tsunami qui s'arrive, qui s'en vient. Un tsunami, sauvez-vous, allez-y dans les hauteurs. Quittez, quittez la plage. Ah, ah, c'est quoi ça? Ah, ah, ah. La Bible nous dit qu'il y a un jugement à venir. Après la mort vient le jugement. C'est grave. Et Jésus est le seul qui est capable de nous sauver de ce jugement-là. Pierre dit aux leaders religieux, « Il est la pierre rejetée par vous, les constructeurs. Si ce matin, tu as construit ta vie en rejetant la pierre principale, qui est Jésus, ta seule option pour être sauvé, c'est qui? C'est Jésus. Il faut faire appel à lui. Il y a juste un nom auquel tu peux faire appel. Et ce n'est pas automatique. La Bible dit, tous ceux qui invoquent, qui font appel au Seigneur, seront quoi? Sauvés. Et il faut faire appel. Il faut l'invoquer. Il faut crier à lui. Dans Romains 10, Paul nous dit, « Si de ta bouche tu reconnais publiquement que Yeshua, Jésus, est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois avec confiance que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras, quoi? Sauvé! Car c'est avec le cœur qu'on parvient à la foi, et ainsi on obtient la justice. » Et c'est en confessant publiquement avec la bouche que l'on obtient le salut. As-tu fait appel à Jésus pour te sauver? Sinon, fais-le ce matin. Qui peut être sauvé? Ceux qui se reconnaissent comme étant perdus, sans Dieu, ceux qui se reconnaissent comme étant coupables devant Dieu, en danger de son jugement, ceux qui désirent faire retour à Dieu et qui invoquent le nom de Jésus, ceux-là, et ceux-là seuls, seront sauvés. C'est ce que enseigne la Bible. Quand être sauvé? La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable, dans 2 Corinthiens 6, 2. Elle dit aussi, c'est pourquoi, prenez à cœur ce que l'Esprit Saint vous dit. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Moi, j'ai entendu l'Évangile, je ne sais pas combien de centaines de fois quand j'étais jeune. Parce qu'à tous les dimanches soirs, on prêchait l'Évangile. Et je savais que c'était vrai. J'y croyais avec ma tête, mais je ne m'étais pas repenti encore. Mais ça, ça me hantait. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Cette semaine, je parlais avec un de mes clients, puis il parlait d'un associé d'affaires d'une cinquantaine d'années. Il était tout récemment, là. Il était parti prendre une marche dans le bois avec sa famille. Il revient au chalet. Les enfants voulaient faire quelque chose d'autre. Il dit, vas-y, là, sa femme. Puis il dit, moi, je suis comme un point dans le dos. Je vais rester au chalet. Il est parti, est revenu. Il était mort. Un millionnaire. L'argent, ça ne sert à rien. J'ai entendu plusieurs personnes à travers les années me dire qu'ils s'arrangeraient bien avec Dieu de l'autre bord. Je ne sais pas si vous avez entendu cela, hein? Ou encore que Dieu est trop bon et il va simplement oublier toutes les fautes. Mais ce sont des faussetés. C'est faux, les amis. C'est faux. Tout ce qu'on a vu ce matin va à l'encontre de ça. Jésus est venu comme le seul sauveur. Laisse-moi dire, si tu dis que bon, je vais bien m'arranger avec Dieu l'autre bord, là, bien, c'est comme si Jésus, là, tu dis, ça ne donne rien que tu sois venu, je suis capable de m'arranger avec Dieu tout seul. Mais on vient de voir qu'il n'a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Puis qu'il faut invoquer le nom du Seigneur Jésus pour être sauvé. Et qu'il faut le faire aujourd'hui, maintenant, parce qu'après la mort vient le jugement. C'est faux que tu vas pouvoir t'arranger. Oublie ça. Jésus est venu comme le seul sauveur. On l'appelle le sauveur. Il est le seul. Il a accepté de prendre ta place sur le banc des accusés de Dieu et de subir la punition la plus horrible. Il a subi l'enfer pour toi, pour t'éviter cela et te réconcilier avec ton Père. Il faut que tu te retournes vers lui en te détournant de ta vie d'orgueil et que tu l'invoques pour être sauvé aujourd'hui. J'ai perdu un collègue aussi en début d'année. Pleine forme, à la retraite, jouissait de la retraite, bien à l'aise financièrement. Le matin, ne sent pas bien. La femme dit, va à l'hôpital, non. Va à l'hôpital, non. En fait, plusieurs jours, va à l'hôpital. Le matin même, finalement, après plusieurs insistances, va à l'hôpital, meurt sur le coup. Ce matin, si tu entends la voix de Dieu qui te parle, c'est une grâce. Et pour ceux qui ont déjà accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est important pour nous de prendre conscience de ces vérités pour ne pas oublier d'où ce qu'on est parti et pour ne pas oublier l'état, le vrai état des choses. Et souvent, on ressemble un peu trop, je pense, à des vacanciers qui jouent dans le sable sur la plage, sachant très bien que le tsunami s'en vient, mais on va profiter au maximum de jouer dans le sable et de se faire des petits châteaux de sable. On sait que le désastre s'en vient. Il y a un jugement qui va frapper la terre. Ça, c'est un autre sujet, là. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de jugement final, après la mort. OK? Il ne faut pas confondre les deux choses. Ce qui se passe ici sur la terre actuellement, oui, ça fait peur. Et oui, Dieu va amener un jugement sur la terre, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. OK? C'est différent. C'est un autre sujet, là. Ici, on parle du jugement final. Le jugement que tout être humain va passer devant Dieu. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi, il ne rentrera pas dans le jugement. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Et ça, tu peux le savoir là, maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est important de nous de prendre conscience de ces choses-là, frères et sœurs, parce qu'on les oublie. C'est ce que j'avais à vous apporter ce matin. Puis je vous invite maintenant, comme d'habitude, comme on fait habituellement, après la révélation de la parole de Dieu, ça devrait normalement nous conduire à quoi? À adorer Dieu, à le louer, à confesser aussi, et à s'engager. Amen.